Radio Foot International, Annie Gasnier.
Merci de nous rejoindre dans Radio Foot International sur RFI. Fin d'après-midi ensoleillé, on vous tient au courant de la météo, mais il ne neige plus pour l'instant, même si la neige reste sur les trottoirs de Paris. Au sommaire de cette émission du jour, Lyon et Lens en quart de finale de Coupe de France. L'aventure continue, mais elle s'est arrêtée pour Metz, arrêtée sur une Panenka manquée. Le geste qu'il ne faut jamais rater, surtout en gros plan. Mais faut-il même oser le tenter, ce geste technique? Riyad Mahrez en grève d'entraînement depuis la fin du mercato et son transfert avorté vers Manchester City, le milieu de terrain des Foxes boude un bras de fer avec ses dirigeants pour pouvoir quitter enfin le club qu'il a sacré champion d'Angleterre il y a 2 ans. L'international algérien peut-il sortir perdant de ce bras de fer ? Patrice Evra is back. L'ancien défenseur marseillais portera cette fois le maillot des Hammers en Premier League. Mais le joueur qui a quitté la Canebière après un geste digne de Kung Fu sur un supporter de l'OM a-t-il encore le niveau qu'exige le championnat d'Angleterre ? Enfin, le football égyptien is back, lui aussi, retour en Coupe du Monde après 28 ans d'absence pour des pharaons qui reviennent au plus haut niveau aussi sur le continent africain, dans le sillage de leur meilleur joueur Mohamed Salah et une équipe que Frédéric Nkena, notre correspondant au Caire, voit souvent de très près. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Merci de passer dans le studio de Radio Foot International aujourd'hui et nous en profiterons donc pour parler avec vous de cette Égypte qui sera présente en Russie. Dans ce studio, il y a aussi Bruno Salomon. Bonjour Bruno.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
Vous n'avez pas perdu l'adresse de Radio
Foot? Pas du tout, ma voiture a su tout de suite m'emmener jusqu'à chez vous.
Ouais, ça va, vous n'avez pas glissé.
Non, ça va.
Nabil Djellit, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous. Super programme, là. Je suis excité comme jamais. Là.
Et Franck Simon, bonjour.
C'est beau.
Franck Simon aussi, j'espère, parce qu'on va parler de plein de thèmes transversaux que vous aimez bien.
Je suis pas du tout excité en revanche, Nabil.
Non.
Bonjour Annie.
Ça vous fait plaisir d'être là quand même.
Absolument, comme d'habitude. Très heureux d'être avec vous.
Éric Mamrut, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour tout le monde.
Bon, vous êtes là aussi. Alors, heureux. Radio Foot, on y va.
Cette passe en retrait, Nabil Fekir avait anticipé, Nabil Fekir, Monsieur Le Sage,
oh, pénalty, quelle erreur,
pénalty, Pedro Mendes, grosse erreur défensive là, pied gauche, Nabil Fekir face à Benjamin Lecomte, oh, Fekir, le contre-pied, 2-1 pour Lyon.
Un capitaine en grande forme et oublier les mauvais résultats en championnat, oublier le temps d'une soirée au moins, où Nabil Fekir et les Gones ont donc finalement réussi à se qualifier en quart de finale de la Coupe de France. Cela fait plusieurs saisons, depuis 2013, que l'OL ne parvenait pas à ce stade de la compétition hexagonale. Alors face à Montpellier, c'était grâce aussi à ce pénalty, on l'a entendu, les Lyonnais ont décroché leur ticket et Anthony Lopez, le gardien lyonnais, était rassuré.
C'est important d'aller de remporter ce match parce qu'on savait qu'on allait affronter une équipe très compliquée à jouer, qui a un gros bloc bas et qui expose énormément en contre, très fort sur coup de pied arrêté. Donc voilà, nous, on a essayé de bien gérer ce match. Je pense qu'on l'a plutôt bien fait avec cette qualification au bout.
C'était nécessaire, Bruno Salomon, de passer les échéances et de faire, je dirais, comme les autres, hein, c'est-à-dire comme Marseille, comme...
Ils se tirent la bourre, finalement. Voilà. Marseille, le PSG, Lyon, le Paris Saint-Germain, dans cette coupe, c'est bien de voir aussi les gros respecter cette compétition. Certaines années, on les voyait disparaître assez vite. Et puis cette équipe de Lyon, elle est en recherche de vouloir des titres, d'être compétitive. Et si vous faisiez sortir de cette Coupe de France, il ne vous restait plus que l'Europa League et le championnat, donc c'est bien, elle reste...
Et le championnat,
Non, mais le championnat, c'est la deuxième place, je suis désolé, il y a deux lectures de championnat. Bah, je ne parlais pas du titre. Non, voilà, là, je parlais du titre de deuxième pour le championnat de Ligue 1, c'est ce qui...
C'est un championnat de vitesse, en fait.
Bah oui, c'est ça.
Il y a le Paris Saint-Germain, il y a les autres, en somme. Mais vous avez raison, de toute façon, le titre est cannibalisé par le Paris Saint-Germain, donc les coupes prennent une dimension bien différente pour Lyon, Marseille, enfin Monaco, c'est un autre cas. L'Europa League, même si la finale se joue à Lyon, est extrêmement hypothétique d'arriver en finale avec le casting. Hein, je rappelle, il y a des équipes comme Arsenal qui sont là, par exemple. Ils doivent déjà battre Villarreal et c'est quand même un niveau plutôt intéressant. Donc ça va pas être simple pour cette équipe lyonnaise. Après, c'est vrai qu'il y a aussi la forme du moment. Marseille Il pouvait en être autrement, presque, puisqu'ils sont sur une dynamique qui est assez extraordinaire. Alors, j'ai ouï dire, je vous le dis comme ça entre nous, que les joueurs de Bourg n'ont pas vraiment pris très au sérieux ce match, puisque la veille, ils ont fêté l'anniversaire d'un copain et ça a fini au bowling.
Il n'y a pas qu'au PSG.
Ça a fini au bowling. Donc, bon, je ne suis pas là pour balancer, mais on va dire que pour des joueurs comme ceux de Bourg, jouer à l'Olympique de Marseille, c'est quand même un match de gala. Tu te mets au moins, au minimum, dans des conditions optimales. Voilà, enfin ça, je dis ça comme ça au passage.
En passant.
Hein. Voilà. Et puis pour nos amis lyonnais, c'était un match plus que de la coupe puisqu'il restait sur deux défaites et un match non maîtrisé.
Exactement.
À 10 contre 11 contre Monaco.
Et là, on n'a pas eu un match extrêmement maîtrisé non plus. On n'a pas eu un Lyon dominant, un Lyon qui a tout cassé.
Non, parce que Montpellier cette année, c'était de la Liga en plus. Lyon est à sa place, je dirais, en quart de finale.
Pour l'instant, ils sont à leur place. Mais ils avaient effectivement besoin de se rassurer. Ils avaient besoin de se rassurer déjà eux-mêmes. Mm-hmm. On vient de le rappeler quand même. Ces deux matchs qui ont été
après la victoire sur le PSG.
Voilà, après la victoire contre le PSG, bon, ils font rien du tout contre les Girondins de Bordeaux. Ils ont une mi-temps, ils traversent la mi-temps.
Ils sont fait bouger, tu peux le dire.
Ouais. Ouais. Et puis contre Monaco, il y a une faute professionnelle collective.
C'est vrai.
Donc c'était bien qu'ils gagnent. Et c'est vrai que c'est pas facile d'enchaîner quand t'es contre Montpellier, qui est quand même une équipe très compliquée très compliquée à bouger. Le Paris Saint-Germain s'en souvient sur un terrain, un champ de patates.
Montpellier n'a plus la même défense qu'il y a quelques mois là. Que ça commence à se transformer.
Ça commence effectivement à. Voilà, il donne des signes de faiblesse, ouais.
Non, mais c'est comme une équipe assez globalement solide autour d'un bon gardien que Franck connaît bien, Lecomte, qui est franchement un très bon gardien.
Tu avais deux bons gardiens hier soir. Deux bons gardiens.
Oui, Anthony Lopez aussi. Hein.
Et ensuite, t'as quand même des garçons qui vont progresser. Tu sens que c'est une équipe à potentiel. Après, il va falloir les conserver. Je pense à Mbenza, je pense à Mukele également. Roussillon n'était pas là, par exemple. Roussillon qui est hyper important. Roussillon, au Paris Saint-Germain, il pourrait jouer, hein, pour vous situer un peu le niveau du joueur en ce moment. Quand on voit,
ça fait
Bruno n'est pas d'accord.
Ça fait sourire, mais, Bruno.
En réserve, Bruno.
Oui, c'est important, la CFA du PSG est actuellement 10e et un petit peu en
difficulté. Il faut faire du point.
C'est pour vous dire quand même qu'il y avait un élément extrêmement important qui n'était pas là. Donc voilà, après, il y a le scénario du match aussi, parce que Montpellier, c'est une équipe en général qui n'encaisse pas et qui fait un peu comme Nantes en début de saison et qui est extrêmement réaliste. Là, le scénario leur a été défavorable.
Ah, juste pour parler de cannibaliser, tu parlais de cannibaliser le championnat du côté du Paris Saint-Germain, c'est aussi un exploit de le faire pour Lyon. Si jamais, je pense que toutes les équipes veulent le Paris Saint-Germain là au prochain tour. Et surtout à l'extérieur, Lyon a battu le PSG. Je vous rappelle juste que le PSG va affronter Marseille le 25 février et que derrière vous enchaînez avec le 28 février avec un match de coupe. C'est peut-être le bon moment.
Mais c'est la configuration parfaite pour
Les Lyonnais. Si ça passe pour eux, derrière c'est ouvert et derrière ça peut faire une finale Lyon-Marseille, etc. Mais on rappelle que le Paris Saint-Germain est triple tenant du titre.
Voilà. Et c'est tout. Ils ont gagné aussi 4 fois la Coupe de la Ligue. Voilà. Donc ils laissent pas la place.
Ils cannibalisent tout en vérité,
Et ils sont là. Et en fait, si vous voulez, pour moi, je trouve que Lyon n'abdique pas. Marseille n'abdique pas tant que le coup, veulent les croiser, parce que cette année, Paris, face à Marseille, face à Lyon, dans les matchs un petit peu âpres, un petit peu durs, ne fait pas ce qu'il faut, donc il y a peut-être une chance.
Apparaît parfois un peu fébrile. Frédéric ?
Ouais, d'autant plus que le match se jouera certes, quelques jours, on va dire, avant le match retour face au Real Madrid.
Voilà.
Donc je pense que il y a un gros coup à jouer. Et en même temps, voilà, comme Nabil le disait, le championnat, d'un point de vue, si on parle du titre, il n'y a aucune chance pour les équipes comme Lyon, Monaco. Et je pense que la Coupe de France cette année, elle est jouable.
Et je crois qu'on n'a pas mesuré, excusez-moi de rebondir là-dessus, la saison dernière, le sacre de Monaco, je crois qu'on ne l'a pas mesuré pleinement parce que, franchement,
eux non plus.
Ouais, eux non plus. Et tu mesures l'équipe.
C'est super.
On s'est émerveillé chaque week-end quand même qu'ils ne craquent pas parce qu'à la fin c'était vraiment, il fallait jamais perdre.
Et tu mesures l'effectif qu'ils avaient, là, tu vois les départs qu'il y a eu et tu te rends compte que finalement pour refaire l'exploit c'est injouable.
Alors l'autre qualifié, autre miraculé peut-être de la soirée, c'était cette équipe qui joue au pied des terrils du nord de la France, celle qui joue aussi juste à côté des Corons.
Frappe au poteau, c'est pas terminé. Nouvelle chance, attention. Et à l'ouverture du score, le but pour le Racing Club de Lens. La troisième tentative a été la bonne pour cette équipe lensoise. Christian Lopez permet aux Lensois de mener 1-0.
Les Vikings font école jusqu'au stade Bollaert.
Nanche.
N'est-ce pas? Vous vous en souvenez? On était allé à Lens, notamment avec Guillaume Ploquin, pour évoquer ce club et ses 6 fidèles supporters. On avait eu autour de notre table aussi eh bien l'ancien joueur emblématique des 100 et or et qui est aujourd'hui leur entraîneur, Eric Sikora, chargé eh bien de tirer cette équipe du fond de tableau de la Ligue 2 pour ne pas descendre en national. Eric Sikora, évidemment, soulagé par cette victoire.
Cette coupe, elle apparaît comme un rayon de soleil dans la saison. C'est pour ça qu'on avait dit qu'on jouerait tous les coups à fond. Maintenant, il va falloir vite récupérer parce que déjà samedi à 15h, on reçoit Valenciennes pour un derby. Et au niveau récup, ça fait vraiment très court. Mais en tout cas, voilà, on a savouré. Demain, on va se remettre au boulot, on va bien récupérer. Et puis, j'espère qu'on sera dans le même état d'esprit samedi à 15h.
Alors pour eux aussi, peut-être Franck, les Lensois, une aventure en Coupe de France, même si là ils ont presque le rôle de petits poussés, c'est très important pour eux.
C'est capital, surtout quand on est dans une situation compliquée, mais on peut être en National, en Ligue 2, en Ligue 1. Dès le moment où on est en difficulté et qu'on peut en mancher quelques matchs, quelques victoires comme ça, c'est important, ça vous relance. Faut pas oublier qu'en début de saison, je crois qu'il y a eu quoi, 7 matchs, 8 matchs, ils avaient pas mis un point.
C'était une catastrophe.
C'était une catastrophe.
Et Lens
aime la Coupe, le public aime la Coupe, ils sont très très liés avec les deux compétitions, hein, plus la Coupe de France que la Coupe de la Ligue.
Ils ont été finalistes 3 fois de la Coupe de France, la dernière en 98.
Ouais, ils aiment cette compétition, ça leur fait du bien, ça leur permet d'avoir des matchs, même si c'est compliqué, il le disait, Sikora, hein, parce qu'il faut jouer dans même pas 3 jours, mais c'est bien de les retrouver à ce niveau-là, ça fait plaisir, parce que honnêtement, en septembre, on se disait, c'est retour en national.
Il y a un bon joueur à surveiller, puisqu'on est un peu sur une radio panafricaine, c'est Diarra, le Malien au milieu de terrain. Souleymane Diarra, et il y a aussi, ils ont des bons jeunes, et notamment un jeune qui est extrêmement intéressant, qui va faire parler de lui dans les prochaines années. D'ailleurs, Olivier Létang, quand il était au Paris Saint-Germain, s'intéressait à lui. Il s'appelle Bellegarde, un milieu relayeur originaire de la région Île-de-France. Voilà, je vous dis ça au passage.
Mais Brice Djadjedje, on l'a vu aussi porter le maillot de l'OM, mais actuellement, il est en prêt, n'est-ce pas,
Il est en prêt parce qu'il fallait prendre en charge son salaire. C'est vrai que ça a été un transfert assez incroyable. Il a quitté l'Olympique de Marseille pour 4 millions d'euros pour Watford. C'est un tour de passe-passe de Vincent Labrune, mais il n'a jamais été inscrit sur la liste des joueurs qui
s'entraînait à pour rien faire.
Ouais, donc c'était un peu c'est une situation qui était absolument surréaliste et ubuesque.
Mais pour revenir sur cette équipe de Lens, on sent quand même qu'elle est fébrile. Juste, j'invite les gens, s'ils peuvent trouver ça sur les réseaux sociaux, l'action du but, il marque. Normalement, ça devrait être la joie. Et il y a deux joueurs Lensois qui sont en train de ils ont failli en venir aux mains. Ouais. Ça fait voir que la situation, Eric Sikora, il est sur un fil, que cette équipe est sur un fil. Et
le but déjà était.
Ouais, était un peu ric-rac.
Mais
ce qui est assez fou, c'est de voir l'état dans lequel s'est mis finalement le foot français. Et je vois Sochaux, pour y être allé mardi, avec des actionnaires étrangers,
un club historique de notre football,
Lens, qui se mettent dedans. On sait que Lens, ça fait n'importe quoi avec les Azeris. Sochaux fait n'importe quoi avec cet actionnaire chinois qui est en train de les mettre dans le décor, et c'est terrible parce que Lens est une place forte du foot français. Bien n'a sûr. Rien à faire là. Moi, je leur souhaite maintenant un joli quart avec un Bollard qui arrache.
De toute façon,
j'aimerais bien que Neymar aille voir ça, qui découvre les terribles. Bon, je suis pas sûr qu'il y aille, mais
Bruno, en plus, après, en haut du terril, c'est vrai que
c'est faut savoir. Oui, il y a des pistes de ski.
Oui, mais ça n'a pas trop marché, cette reconversion des terrils en pistes de ski, malheureusement. Mais cela, vous pouvez monter jusqu'en haut et admirer le paysage. C'est vrai que c'est encore les remous de ce fameux investisseur d'Azerbaïdjan, je ne me trompe pas, qui était là et qui, évidemment...
Qui n'est jamais venu avec...
on a les Espagnols maintenant, l'Atlético Madrid.
Alors, l'un des... Oui. Comment c'était Land of Fire, Azerbaïdjan à l'époque, ce qu'ils avaient marqué sur leur maillot. L'un des matchs aussi qui hier soir a offert un moment marquant, c'est celui de cette séance de pénalty, de tir au but, comme on dit, à la fin du match pour départager deux équipes, et où le gardien de Caen, Brice Samba,
Brice Samba, junior.
Son père s'appelait pareil.
Il s'appelle vraiment Franck.
C'est un ami personnel. Pardon Franck, mais vous savez, même pour Neymar, on oublie les juniors un peu en France. En tout cas, il s'est illustré en arrêtant 4 tirs au but hier soir, après en avoir arrêté 2 au tour précédent. Et le dernier sur lequel on s'arrête, ce dernier tir au but a suscité beaucoup, beaucoup de commentaires.
Il a la pression, Farid Boulaya. Il sait qu'en face, Brice Samba en a stoppé 3 sur 5 pour le moment.
Il y a un Golgot.
Oh la pelle qui est manquée. Et le Fronde à Brice-Somba. Caen se qualifie pour les quarts de finale de la Coupe de France.
Il faut oser et puis en même temps il faut bien doser son geste quoi.
Et si tu te rates?
Si tu te rates, t'es ridicule.
Tu sais pas jouer, Jack. T'es mauvais.
La solitude chantée par Joël Bass, hein. on est entre gardiens.
Un grand monsieur.
Ouais, et entre grands monsieur.
Alors, je connais bien le tireur. Alors, je suis pas ami de Brice Samba, mais je connais bien
le tireur. On va voir l'un contre l'autre, là, les deux amis de France Football. Nabil
bonsoir,
contre.
Bonsoir, Nabil. C'est Nabil, chaud ouais. Cet après-midi.
Il a tiré finalement cette Panenka, mais en même temps, ses trois copains avant ont raté leur tir au but. Est-ce que c'est le. Je crois que nos confrères de 20 minutes aujourd'hui parlent de Panenka, de la honte.
Ouais, j'exagère un peu.
C'est
un peu disproportionné. Après, vous avez deux lectures, moi, hier. J'ai appelé Jamel Abdoun, qui en a réussi 5 sur 5 tentés, qui est un peu c'est un des spécialistes de la Panenka. Évidemment, c'est la force de l'image. Mais aujourd'hui, dans la palette des tireurs de pénalty, la Panenka est un geste technique. Alors, pour le coup, évidemment, il a raté. Le scénario ne plaide pas du tout en sa faveur. Personne ne le collait. C'est le dernier
Farid
tireur.
Farid Boulaya, hein, le ouais, médecin.
Farid Boulaya, qui est en fait voilà. Un gamin du sud de la France, qui a brillé à Clermont et qui débarque là à l'intersaison. En plus, il vient d'arriver de Gironde.
Oui, il avait pas joué du tout.
En Espagne. C'est un joueur de football assez fin, assez talentueux. Et pour le coup, bon, bah, c'est sûr que ce qu'on va retenir, c'est son pénalty. Mais juste avant, vous avez un joueur qui est tout aussi expérimenté, qui s'appelle Emmanuel Rivière, qui a un CV quand même d'un autre pédigré, qui est passé par Newcastle, Monaco ou Toulouse, mais qui se vautre lamentablement. Et lui, moi, je suis lui, je vais voir Boulaya, je lui dis, bah, merci mon pote, tout le monde m'oublie.
Non, mais il a pas d'excuses. Ton ami Boulaya, il a pas d'excuses.
Non, mais attends.
Quand tu vois le gardien.
On est quand même dans un pays de pisse froid. On n'a pas le droit de faire un coup du sombrero. Neymar fait un coup du sombrero. On dit qu'il manque de respect.
Bravo,
là, le gars tente une Panenka.
C'est une crotte au gardien.
Et tant pis pour lui.
C'est la prise de risque.
Arrêtez de mettre tomber dessus.
C'est pas ça la prise de risque. C'est froid.
On va arrêter de tomber.
Si ça passe, c'est du panache, c'est du génie.
Voilà, on va arrêter. On va arrêter de tomber. Le gars tente un geste technique, il se rate, mais il y a du spectacle.
On est dans un truc de spectacle. Non, mais dans la série, je veux bien. Ouais. Quand t'es dans la série, mais quand tu sors de la série, que t'es comme ça en face-face,
mais tu mets une sacoche. On est d'accord.
Quand tu sors de la série, tu touches du bois après un geste comme ça.
Oui, mais regardez, on se souvient tous de celle de évidemment Zinedine Zidane 2006 Coupe du Monde.
Zinedine Zidane au jeune.
Il a bouffonne en face.
Elle n'est pas réussie celle de Zidane. En fait, elle est à deux doigts de. Alors certes, c'est Zidane. Certes, il reste du temps derrière.
Et certes, il réussit.
Et après Boulaya, ça fait partie de sa couleur. De joueur, c'est un joueur technique, c'est un joueur fin.
Arrêtez de parler du tireur, parlez-moi du gardien de but qui a fait les parades, bon sang.
Non, mais attends,
c'est pas normal.
Après le pénalty,
vous allez en parler.
Tu nous parles de Brice Samba.
Je m'en vais.
Non, mais Annie, il est sur la course d'élan.
Brice Samba Junior, on en a parlé.
Sur la course d'élan, il masque pas assez. En fait, c'est au dernier moment la rupture.
On s'en fout de Boulaya.
La rupture, c'est au dernier moment, et en règle générale, tu le fais quand tu vois que le gardien a clairement mordu. Il a pas maîtrisé son geste.
Franck, toi-même, t'as dit que t'aurais pu arrêter.
Non mais moi ce que je voudrais souligner c'est pas seulement vous parlez de ça mais vous parlez pas des parades qu'il a fait avant ça n'existe pas
mais
donc
si puisqu'il a arrêté les trois précédents.
Mais vous vous rendez compte de ce que ça représente?
Eh ben dans non, mais série, je viens de le dire, il en a arrêté
3 sur 5 et derrière dans les tirs décisifs de le sortir. Mais c'est un truc considérable et en plus c'est pas la première fois. Donc moi je sais pas, moi si j'ai envie de retenir quelque chose, c'est l'exploit de Brice Samba plutôt que la crotte de Boulaya
Annie parle de la Panenka, de la honte, mais on a l'impression qu'il a commis un crime de guerre le gars.
Non mais c'est vous qui le dites,
c'est incroyable. C'est
pour ça qu'on parle de lui, on le défend.
C'est vous qui le dites. Bah il faut défendre le gardien de but, voilà. Brice Samba, point barre.
Joseph-Antoine Bell n'aurait pas contredit notre ami Franck Simon aujourd'hui sur l'antenne. C'est la fin de la première partie de Radio Foot, on se retrouve juste après la pause pour continuer à parler. Vous restez hein Franck Simon?
Je vais voir.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
La suite de Radio Foot International avec tous nos amis qui sont restés. Hein. Franck Simon, vous êtes là toujours.
Non, j'ai pas jeté le gant. Alors, je n'ai pas jeté le gant pour un gardien. Vous voyez, c'est important.
Le gardien qui fait plus chaud dans votre studio qu'à l'extérieur. C'est une info. Ah,
c'est... Alors, vous avez entendu Nabil Djellit à côté de lui, Bruno Salomon, Eric Mamrut et puis Frédéric. Ah, Frédéric, vous n'êtes pas là souvent, mais maintenant vous vous imaginerez ce qui peut se passer dans ce studio.
Ah, et c'est même pas le café, c'est pas le café, hein, c'est
et,
pas le vendredi.
Et oui, en plus, il n'y a pas Rémi et ses proverbes.
Voilà.
On continue avec votre ami Nabil.
Ah, oui.
On voyait aujourd'hui.
Que des amis,
oui. C'est la soirée des amis. Non, mais, qui est ami avec Patrice Evra? Est-ce que c'est le prochain sujet? Je veux savoir.
Ça va tomber sur vous.
Ah non, alors là.
Et quand je pense qu'il a failli venir à Everton, Patrice Evra, j'ai tremblé.
Oui, vous êtes supporter des.
Aussi.
On était sur Mahrez, pardon.
Donc voilà. Mahrez, une nouvelle fois, Riyad Mahrez ne s'est donc pas entraîné avec ses camarades de Leicester, l'international algérien, effectivement, serait officiellement déprimé après son transfert avorté la semaine dernière. C'était le dernier jour du mercato, le 31 janvier. Manchester City le voulait. Alors, il le voulait pour pallier l'absence de Leroy Sané, hein, qui s'était blessé un peu avant.
Alors, c'est un peu plus complexe que ça, mais allez-y, parce que...
On y va un tout petit peu. Les Foxes, donc, ne l'ont pas laissé partir, alors que on proposait 73 millions d'euros, ce qui était une... C'était 68 millions.
Plus, non, mais ils ont fait... Pour
le joueur.
Non, mais je vous la faire... Allez-y, je vous la faire simple, parce qu'on a sorti aussi des infos sur le site de France Foot à ce sujet. C'est 60 millions de livres qui ont été proposés par Manchester City, c'est-à-dire à peu près 68 millions d'euros. Les attentes de Leicester City sur le cas de Riyad Mahrez, à qui il reste 2 ans et demi de contrat avec les Foxes, étaient à hauteur de 100 millions de livres, donc 112 millions d'euros, ce qui aurait été le transfert le plus important de l'histoire du foot anglais, insulaire, entre clubs anglais. C'est-à-dire une demande qui ressemble, une demande qui peut paraître stratosphérique, presque une folie pour 2 ans et demi de contrat. Ce qui s'est passé, c'est qu'ensuite, Leicester a demandé 80 millions de livres plus un joueur cadeau. On a parlé de Mangala, mais il y avait en fait d'autres noms.
Mais il voulait pas le vendre, en fait. C'est ça.
Il voulait absolument pas le vendre. Alors c'est là où c'est très surprenant, c'est parce que ça fait 4 ans que le joueur est là. Il a des états de service remarquables. Il n'a jamais eu aucun souci. On lui a fait des promesses ou des engagements sur les, notamment à la fin de la saison dernière, où il avait la Roma qui était concrètement là. On lui avait demandé d'aider à maintenir le club. Il l'a fait. Il a vu partir Ranieri, il a vu partir Drinkwater, il a vu partir N'Golo
Kanté.
Ensuite, son ambition légitime, évidemment, c'est de vouloir jouer dans un plus gros club, parce que bon, je pense qu'il a fait le tour de la question. Et c'est vrai que c'est très surprenant de voir Leicester le bloquer, parce qu'on ne voit pas quel challenge sportif ils peuvent lui proposer. Ils sont maintenus, et même financièrement, on voit pas ce qu'ils peuvent lui proposer de plus.
Alors on va y venir, mais ce qu'il y a peut-être d'important, parce que là il a raté 2 journées de championnat, hein, le match contre Everton et Swansea.
Pour dire les choses. On dit, ouais.
Juste une chose, Claude Puel entre-temps est arrivé comme entraîneur ces derniers temps pour là aussi essayer de mieux relancer l'équipe. Et écoutons-le, Claude Puel, parce que il a l'air d'être plutôt compréhensif et il n'essaye pas pour l'instant de l'aligner.
I think it's the best decision for our squad.
Je pense que c'est la meilleure décision pour notre équipe. C'est la meilleure chose à faire vu son état d'esprit. On en reparlera quand il se sera vidé la tête. C'est difficile de faire face à cette situation après ce mercato. Mais il faut avancer et rester concentré sur le prochain match. Ensuite, Riyad pourra revenir parmi nous, car il est un joueur important pour l'équipe.
Et justement, samedi, il y a un match à Manchester contre les Citizens des Foxes.
Il n'y sera pas.
Alors, on commence à lire qu'il y aurait une entente. Mahrez reviendrait jouer et il arrêterait finalement sa grève, mais le club accepterait de le libérer à la mi-saison.
Pour la faire claire, Annie, bon, lui, il estime, on peut le comprendre, que le club a manqué de classe à
oui,
son
mais
égard.
Il a un contrat, il doit jouer, non?
Oui, mais dans ces cas-là, on fait pas de mercato, on arrête les mercato, et c'est terrible. Moi, je suis pas pour Annie, mais il faut dire aussi un peu les choses. Parfois, on dit, les joueurs doivent respecter les contrats, ils doivent pas faire de clash. Sauf qu'on se rend compte que dans les faits, il y a ni gentil ni méchant, chacun défend ses intérêts. Mais parfois, comme Dembélé par exemple avec Dortmund qui a dû aller au FC Barcelone, parfois vous êtes obligé de transgresser certaines choses. Alors, et c'est vrai, il a accusé le coup Riyad Mahrez, il pensait que c'était enfin la bonne pour lui. Ça n'a pas été le cas en fait. L'histoire, elle aurait pu se finir.
Puis aller travailler avec Pep Guardiola, c'était sûrement un grand rêve.
On peut comprendre sa déception et on peut comprendre que ça lui ait coupé les jambes.
Bruno.
Non, enfin, sur cette antenne, je l'avais déjà dit pour Dembélé, donc je vais reprendre. C'est pas une manière. C'est pas des manières. C'est pas des manières de la part d'un joueur. Il a un contrat de travail. Il doit tenir ses engagements. Après, Manchester City a aussi joué au coquin en proposant un tarif assez bas, même si.
Et dans les dernières heures, pour essayer de forcer la chose.
Donc bilan des opérations.
Comment ça, assez bas? Bah, quel tarif, le premier tarif que vous dites, il est bas?
C'est celui que t'as donné.
Il est absolument pas bas du tout.
Je suis désolé. Si t'as quelqu'un qui bas par rapport aux attentes, les espérances de Leicester par rapport à ce qu'on propose Manchester City.
Il n'y avait pas d'espérance. Leicester, c'était 40 millions de livres cet été. Il a pris 20 millions.
Je suis d'accord.
Deux livres d'un coup. On parle de Riyad Mahrez à qui reste 2 ans de contrat.
Nabil, ce que je veux dire par là, c'est que il y a quand même un gap de 40 millions entre la demande et ce qui est proposé. Donc, quand t'es gérant d'un club, tu peux aussi, t'es peut-être pas un très gentil, mais tu peux aussi dire, attends, ils nous prennent pour des jambons, ils tentent le coup à la dernière seconde, on le fera pas. Après, derrière, moi, sécher 5 entraînements, ne rater 2 matchs et un match important pour Leicester, pour affronter Manchester City, je trouve pas sa classe. Je pense qu'à un moment donné, si t'es un grand joueur, tu demandes à tout le monde de se mettre autour d'un bureau et tu peux partir au bras de fer.
Parce que dans les faits, c'est un peu plus compliqué que ça et dans les coulisses. Parce que ça, c'est comme nous, on l'imagine, mais je pense que c'est un peu plus compliqué.
Oui. Franck.
En plus, comme on le disait, il y a ce match important. Son entraîneur compte évidemment beaucoup sur lui et pour des raisons que nul n'ignore, c'est tellement un joueur exceptionnel que le club a besoin de lui. Et donc finalement la porte lui est grande ouverte alors qu'il s'entraîne pas, il s'entretient peut-être.
Mais après il a décidé de plus s'entraîner, de plus revenir.
Non, mais il est pas nous a fait la même hein. Ouais. C'est-à-dire pas du tout s'entraîner, vous voyez des opérations, vous voyez la saison qu'il est en train de faire. Malheureusement pour lui, peut-être qu'il sera très frais pour l'équipe de France.
Ce qu'il veut c'est un bon de sortie, ce qu'il veut c'est que ça soit écrit.
Mais le club de Leicester c'est pas bien comporté de toute façon, c'est clair. Après c'est un garçon qui je pense est un garçon intelligent, c'est un garçon qui est...
Il n'a pas de passif.
Voilà, il n'a pas de passif, en fait. Hein. On peut comprendre... Moi, je comprends aujourd'hui que, ben voilà, il soit pas bien, il soit la tête dans le seau. Il y en a d'autres. Hein. Jean-Michel Seri, il n'y a pas si longtemps, au Mercato d'été, il n'était pas bien.
Et après, il a beaucoup de mal à revenir à son niveau.
Il n'est pas revenu au niveau qu'on lui connaissait. Donc, on espère que Mahrez trouvera la porte de sortie qu'il mérite cet été, j'espère, pour lui. Enfin, voilà.
Je pense qu'il faut rappeler aussi quand même que ça fait quand même... 4 mercato que Mahrez est bloqué.
Oui, donc à un moment donné,
c'est normal que tu accuses le coup.
Ouais, donc tu accuses le coup, mais en même temps,
et puis là,
je pense
les Citizens, c'était aussi sûrement. Ouais.
Mais je pense que la manière adoptée par Mahrez n'est pas la bonne.
Alors, il y en a un qui n'a pas aimé le comportement de Riyad Mahrez, c'est Pep Guardiola.
Justement.
L'entraîneur des Citizens, qui est, d'après la presse anglaise, aurait renoncé à prendre Mahrez lors des prochains mercato, au vu de son comportement.
Ouais, faut faire attention en ce moment à ce qui sort et à une forme d'instrumentalisation, parce que je peux vous dire aussi qu'il n'y a pas d'amende. C'est sorti aussi dans la presse anglaise. Et je peux vous dire également qu'on dit que ses coéquipiers ne veulent pas qu'il revienne et qu'il y en a qui sont en colère contre lui. Après, c'est mes infos. Après, chacun a les siens. C'est pas non plus apparemment le cas. Quoi.
Et Garab Amadjer aussi qui est intervenu parce que c'est le sélectionneur actuellement de l'Algérie.
Non, mais Anis, ça va.
Il y a peut-être pas de match important ces prochains mois.
Oui, il y a Amadjer qui est évidemment dans son rôle. À mon avis, ça va rentrer tranquillement.
Il dit clairement qu'il mérite peut-être mieux que Leicester, mais il faut qu'il retourne s'entraîner.
S'il fait ça, c'est qu'il a craqué. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on lui a dit des choses. C'est comme vous avec votre employeur. Et quand on dit il a séché l'entraînement, il est comme tout le monde en fait. Parfois, quand vous avez mal à la tête, vous êtes arrêté.
Mais vous séchez pas Radio Foot.
Oui, mais... Non, mais vous voyez ce que je veux dire.
C'est dans la loi.
C'est un contre-coup. C'est un contre-coup émotionnel. Alors après, vous allez dire oui, mais il respecte pas son contrat. Mais bon, on n'a pas affaire à des robots non plus.
Oui, mais dans la société normale, tu ne téléphones pas à ton patron en lui disant excuse-moi, je viens pas. Il a pas un arrêt maladie. Il est pas malade.
Mais comment tu le sais qu'il a pas un arrêt maladie?
Arrête. Franchement, tu sais très bien qu'ils partent au bras de fer comme ça. Les joueurs, que ça soit Dembélé ou d'autres. Là où je suis d'accord avec toi, Nabil, sur un truc, c'est qu'il n'y a pas de blanc ou noir. C'est pas le côté les gentils propriétaires avec les méchants joueurs. Il n'y a pas de problème. Ils ont tous des comportements, pour la plupart, je dirais même de voyous.
Mais quelle stratégie adopter, Bruno, quand tu te retrouves comme ça après plusieurs mercato bloqués? Alors que comment ils peuvent faire une belle opération et lui permettre de voir autre chose? Qu'est-ce qu'il doit faire? En fait, il doit rien dire, quoi. Il doit juste se laisser faire.
Le problème, c'est qu'il l'efface.
Non, mais quel est l'intérêt de Leicester dans l'histoire? Ils perdent le joueur, là. Ils ont perdu le joueur et ils vont perdre un transfert énorme. Voilà. Quel est leur intérêt dans l'histoire?
Ils vont perdre de l'argent, ça, c'est sûr.
Bah voilà.
Alors on va partir sur un autre sujet, je pense que ça va être tout aussi chaud. Ah.
I really feel blessed to be here and let's work and don't forget. I love this game.
Il l'avait promis, il l'a fait. Pat Evra revient sur le terrain et finalement pas n'importe lequel. Après 6 saisons sous le maillot de Manchester United et 379 matchs en Premier League, eh bien le défenseur renoue avec la Premier League sous les couleurs de West Ham, des Hammers un peu en panne hein, en championnat, 12e place en ce moment.
Ils sont bien revenus quand même. Hein.
Oui.
Depuis deux mois, ils sont un mois et demi, ils sont très bien revenus les Londoniens.
Ouais, totalement. Ils se sont redressés.
Ouais. Et ils Mais là, ils ont sur les 5 derniers matchs, en tout cas, il y a eu une victoire et après des matchs nuls ou des défaites. Le club, en tout cas, a l'air heureux de sa recrue puisque ils ont dit "We love this game".
Bah,
donc,
c'est cool.
Ils se mettent dans le refrain de Patrice Evra.
Moi, je suis pas dans le bashing.
Alors, Patrice Evra, rappelons-le, viré ou auto viré de Marseille après un geste que tout le monde a vu sur un supporter, un méchant coup de pied. En Ligue Europa.
Oui, bah oui, non, mais moi, alors après chacun sa position parce que c'est presque un, c'est comme les référendums.
Vous allez le défendre.
C'est comme les référendums, en fait, c'est plus tellement c'est savoir le challenge sportif. C'est soit tu l'aimes, soit tu l'aimes pas, en fait.
Et ça, alors, vous l'aimez.
Bon, moi, j'aime bien les personnages qui ne sont pas lisses. Moi, il me fait délirer sur les réseaux sociaux. Je trouve qu'il a une carrière extraordinaire. Alors, certes, tout n'a pas été parfait. Sa séquence est complètement ratée du côté de l'Olympique de Marseille. Mais un truc que je respecte et je terminerai là-dessus, il a 36 balais, de l'argent, il en a pris dans le football. Il pouvait très bien s'arrêter. Il a envie de continuer parce qu'il a envie de choisir aussi sa sortie. Et moi, ça, je le respecte.
Mais c'est peut-être justement, de son côté, une question d'honneur, Bruno.
Bah là-dessus, il a raison. Là-dessus, il a raison. C'est quand tu choisis ta sortie. Là, c'est l'Olympique de Marseille. Imagine-toi, tu termines ta carrière sur virer d'un club alors que le CV qu'il a.
Il y en a, c'est sur un coup de tête. Mais
oui,
bon.
Sur un coup de tête. Mais en Coupe du Monde, tout ça, ça fait classe, quoi. Enfin, c'est un truc un peu plus. Voilà.
Non, mais final de
là-dessus,
coupe du monde.
En finale de Coupe du Monde. Après, derrière, au vu de ses prestations, parce que avant son coup du Kung Fu du côté de Marseille, il s'était quand même l'ombre de Patrice Evra qui était sur un terrain.
C'était pour ça d'ailleurs que les supporters s'énervaient.
Voilà, c'est que les supporters n'en pouvaient plus de ses prestations. Donc maintenant, je veux bien, il est peut-être affûté.
Il est parti à Dubaï, il a fait une préparation
avec son
mois.
Ami Nicolas Anelka. Pote, oui, bah, il a tiré des camions.
Est-ce qu'il va être prêt pour jouer au football? Ça, c'est autre chose.
Mais voilà, mais après, effectivement, chapeau à lui d'avoir retrouvé. En plus, il n'est pas allé terminé dans le 12e du championnat qatari.
Ou chinois.
Il a débarqué. Voilà, il débarque à West Ham, 12e de première. Allons-y. Après, derrière, moi, personnellement, j'aime pas le personnage parce que ces vidéos, je n'en peux plus. Mais ça, voilà, qui s'amuse.
Bah, vous voyez, elles amusent. Évidemment.
Moi, ça me fait marrer.
Franck, moi, il y a une question qu'on se posait, nous, ce matin. Est-ce qu'il a le niveau encore de la Premier League, Patrice Evra?
Merci
Franck. No comment.
Non, forcément. Techniquement, physiquement aussi, mais après c'est le rythme qui fait défaut. Oui. Vous le savez très bien. C'est un championnat qui est très demandeur de ce point de vue-là.
Même à Marseille, il avait du mal à.
Il avait, voilà. Donc on va le savoir tout de suite. Mais son entraîneur n'est pas fou. On va pas non plus le mettre dans des trucs difficiles.
Parce qu'il le connaît bien, son entraîneur, ouais. David Moyes, avec qui il était.
Je le connais bien aussi.
Manchester.
C'est un grand monsieur du côté d'Everton qui s'est un peu perdu en route depuis. Mais voilà, il va le tester. Il va savoir effectivement s'il peut le lancer, s'il peut le faire débuter, ou alors le lancer.
Il est là pour rendre des services.
Voilà. Il est là pour le rendre des services.
Il y a Masuaku qui est devant lui, qui a 4 matchs de suspension, qui était à l'Olympiakos, qui est un très bon joueur, un gaucher. Il y a Creswell aussi
qui est passé par le football français,
qui n'est plus ce qu'il était. Après, je crois que West Ham, et peut-être tu le sais mieux que moi, parfois ils évoluent en 3-5-2, donc peut-être qu'il va falloir faire un peu d'athlétisme sur le côté gauche. Après, c'est un garçon.
Mais ça va lui plaire. Il aime.
C'est une expérience incroyable. C'est un garçon qui a une expérience.
Oui, il aime, mais il avait un tracteur. Attends, c'était quand même le Pat Evra qu'on a vu. C'était quand même, il avait une charrette au.
Tonton Pat.
Non, mais c'est vrai, t'as raison. Il est passé complètement à travers. On peut pas dire.
Il n'a joué que 21 matchs sous le maillot de l'Olympique de Marseille durant un an et demi. Il était rarement.
Mais attendons de voir là. Parce qu'on fait de la prospective, on n'en sait rien. Oui, voilà. Ça se trouve, ça va bien se passer.
Mais je pense qu'il ramène aussi son expérience côté vestiaire.
Voilà.
C'est surtout ça que recherche.
Déçu avec lui.
Son entraîneur.
Il descend pas du bus, vous savez pas.
Je pense que c'est ça plutôt.
Pat Evra, c'est 5 titres de champion d'Angleterre, une Ligue des Champions et des clubs comme donc Man United, la Juventus, Monaco, Nice.
C'est ce que voulait Rudy Garcia aussi, hein, un patron dans le vestiaire. Hein, c'est le patron qui a pété les plombs. Donc,
Mais il était apprécié quand même. Alors, moi je le sais parce que j'ai quelques échos.
Mais même en équipe de France, on en sourit.
Très sincèrement, parce que j'en connais quelques-uns, il parlait quand même, que ce soit lui, Diarra ou Gomis par exemple. C'est quand même des mecs qui étaient des leaders positifs. Alors parfois leur image est biaisée à l'extérieur.
Ils la biaisent eux-mêmes hein, d'ailleurs.
Ouais, voilà. Après, on peut toujours en discuter, mais notamment par les jeunes, ils donnent des conseils. Ils sont plutôt sympas. Voilà.
Là, c'est pas le seul joueur à faire ce type de vidéo ou d'être très présent sur les réseaux sociaux.
Bien sûr.
Bon après voilà, on aime ou on n'aime pas.
Non, et c'est du moment.
Je pose la question. Il fait de mal à qui?
Mais à personne.
Personne.
À partir de là.
Vous êtes quand même gentil avec le leader de Nicena, peut-être.
Bah pour moi, Nicena, c'est une œuvre, collective.
Et après, il était capitaine quand même.
Il est passé à côté comme d'autres, mais dans ces cas-là, on refait le débat. Mais Evra, j'ai aussi des échos. C'est un mec quand même qui est courageux et qui est prêt à se mettre devant pour ses copains. Pour moi, ça compte. Voilà.
On verra.
On verra, exactement. Ouais. Allez, on passe à l'autre sujet. Avec Frédéric, on va profiter de votre savoir, Frédéric, puisque vous êtes au Caire. Vous allez de temps en temps aussi jusqu'à Riyad, deux pays d'ailleurs qui vont retrouver leurs équipes nationales face à face en Coupe du Monde.
Ouais, dans le même groupe. Ouais.
Incroyable, ouais, avec la Russie et l'Uruguay.
Ouais. Ça va être très difficile pour les deux sélections. Mais bon, c'est une Coupe du Monde, il y a toujours ce facteur surprise. Donc on verra.
Alors justement, si on regarde sur le papier, comme on dit, nous, surtout avant les matchs, avant le début des compétitions, l'Égypte, emmenée par Mohamed Salah, on y viendra tout à l'heure, mais ils sont allés en tout cas jusqu'à la finale de la dernière CAN. Est-ce que c'est l'équipe, selon vous, messieurs, mais je vais évidemment commencer par Frédéric, qui est la plus forte des équipes africaines qualifiées cette année pour la Coupe du Monde?
Honnêtement, connaissant très bien cette équipe...
On rappelle, il y a la Tunisie, il y a le Sénégal, le Maroc...
Et Nigeria.
Honnêtement, je pense que non. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui joue très bien ensemble, mais sur le terme des individualités, mis à part Mohamed Salah, l'équipe elle est un petit peu, je dirais, faible par rapport aux autres équipes.
On a vu des générations égyptiennes plus fortes qui n'ont pas été à la Coupe du Monde.
Exactement.
Je suis d'accord avec
moi,
vous.
Moi, c'est le sentiment
mais
que j'ai.
Mais ils ont joué plus, quoi.
Et il y a beaucoup d'Égyptiens, je veux dire, en Égypte qui ont le même sentiment.
Je suis d'accord. Ouais.
Franck.
Mais c'est vrai que ça manque d'individualité par rapport au Nigeria, par rapport au Sénégal, par rapport au Maroc. Ouais. Après, ils ont cette solidité
on les a vus quand même arriver jusqu'en finale de la CAN, alors que ça faisait très longtemps qu'ils participaient plus à la compétition. Et il y a aussi, au-delà des individualités, mais il y avait aussi cette envie,
c'est dans leur ADN. Ouais. C'est ce que je dis souvent, c'est que c'est dans l'ADN du joueur égyptien. Jouer une compétition africaine, que ce soit une compétition de club ou une Coupe d'Afrique U20 ou un tournoi comme la Grande Coupe d'Afrique des Nations, c'est important pour eux. Après, le souci aujourd'hui et pour Hector Cooper, c'est de se dire qu'est-ce qui va se passer si je perds Mohamed Salah? Qui est-ce que je vais mettre derrière?
Si l'Argentine perd Messi, c'est pareil.
C'est ça la difficulté. Non, mais
ils ont d'autres joueurs.
Tu situes l'importance du type par rapport au groupe. Voilà, c'est tout. Cooper aujourd'hui, il se dit mais comment je fais sans lui? Il a des joueurs derrière, des joueurs de talent, mais qui n'ont pas l'influence de Salah.
Même lui, Francky, moi j'y pensais en cours de saison là. Il est en train de tout donner, quoi. Est-ce que sa saison régulière, il va pas arriver émoussé? Non, mais j'en sais rien. Je fais pas d'extrapolation, mais
on sait qu'ils seront vraiment
intenses. C'est intense. La première ligue, c'est intense. Il y a la Ligue des Champions également qui joue, et il y a ses objectifs. Et lui, en plus, il porte tout l'espoir de la nation égyptienne. Il y en a d'autres, ils peuvent se cacher.
Je pense qu'il y en a quelques-uns. Je pense que quand même avec les transferts quand même des garçons à West Bromwich Albion,
Gazi,
ça c'est bien. Ça c'est bien parce que quelque part ça leur donne un petit plus de vécu, d'expérience collective.
C'est une sorte de préparation pour le mondial.
Justement, Frédéric, la marque un peu du football égyptien a évolué dans le sens où jusqu'à présent c'était des joueurs qui évoluaient dans leur propre championnat. Il y avait jusqu'aux problèmes politiques un très bon championnat de bon niveau et très fort. Actuellement, de quoi est formée cette équipe nationale? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui jouent à l'étranger désormais en dehors de Mohamed Salah?
Il y a la majorité maintenant, si je regarde l'équipe, le 11,
oui, bien sûr, le 11 type.
L'équipe type, la majorité évolue à l'étranger, soit en Europe, soit dans les pays du Golfe. Parce qu'aujourd'hui, je veux dire, à l'époque, les clubs égyptiens avaient la possibilité de conserver déjà leurs internationaux. et aussi d'attirer les joueurs qui n'avaient pas forcément la possibilité d'aller en Europe. Donc c'était une sorte de tremplin. Ouais, c'est vrai, mais aujourd'hui quand on regarde, je veux dire les clubs égyptiens, le championnat égyptien, c'est un petit peu moins ça parce que c'est voilà, depuis que la livre égyptienne a été dévaluée, donc il y a un an et demi, deux ans, les clubs égyptiens ont un petit peu perdu de leur attractivité économique,
leur
en fait. Et du coup, ces joueurs-là, aujourd'hui, on les retrouve en Arabie Saoudite pour beaucoup d'entre eux, ou en Turquie, ouais.
Mais c'est le drame du foot d'Afrique du Nord, au-delà de l'Égypte. T'as des joueurs marocains comme Ben Sharki qui ont flambé, bah, ils vont pas venir en Europe, ils vont aller dans le Golfe parce que.
Bah, les Tunisiens, t'as la vague de Tunisiens qui a signé en Arabie.
Les Algériens par le passé.
Et les Saoudiens, eux, ce qui est assez étonnant d'ailleurs, c'est le mouvement inverse. Eux, ils signent en Espagne. Pour les 6 mois à venir.
Et alors, pour la petite anecdote, les Algériens, après la Coupe du Monde 2010, on les appelait plus les Verts, mais les Billets Verts, parce qu'ils étaient certains qui étaient partis dans le Golfe. Voilà. Bon.
En tout cas, Mohamed Salah, c'est donc le joueur qui a été sacré cette année d'ailleurs par la CAF, meilleur joueur africain.
Et arabe.
C'est
et arabe aussi, meilleur joueur arabe.
Et arabe, bon, c'est la vedette des Reds, donc du côté d'Anfield. Anfield qui lui chante déjà une chanson. Salah.
But I don't matter though, actually, cause we got Salah.
Alors c'est un clip sous cette chanson avec Jürgen Klopp et Pep Guardiola qui se battent et qui se foutent des coups, mais pour rire évidemment. Et cette chanson de Mohamed Salah, comment est-il vu ce joueur en Égypte, lui qui a été formé par le football égyptien mais qui est parti très très tôt, il avait à peine 20 ans, il est parti ensuite en Suisse, d'autres aventures, on va dire.
Il symbolise la réussite en Égypte parce que c'est un joueur qui est parti de nulle part. Il est pas passé par le Zamalek ni le Al Ahly. En général, les joueurs qui vont à l'époque, les joueurs qui allaient à l'étranger, passaient systématiquement par.
C'est de grands clubs.
Ou Ismaili, exactement. Ouais. Mais je veux dire, Mohamed Salah, il est parti très tôt et il a réussi à briller. Il est parti avec une mentalité saine parce que d'habitude les Égyptiens ne si je regarde les Mido ou Amerzaki ou bien d'autres
aussi en Europe.
Ouais, ils ont du mal à s'adapter parce qu'ils ont pas une mentalité.
Belle saison quand même avec Willian.
Ouais, mais c'était une demi-saison.
Oui, je suis d'accord.
Donc parce qu'ils ont pas forcément la mentalité qui leur permette de briller à long terme quoi. C'est-à-dire que ils brillent sur une petite période. Et ensuite, ils se reposent sur leur laurier.
Ouais, puis c'est surtout aussi peut-être que en Égypte, ils sont bien payés, ils sont dans des grands clubs, ils sont un peu comme le roi.
Oui.
Ouais, voilà. Mm-hmm. Je veux dire, c'est comme en Algérie, hein, c'est pareil. Ils ont pas envie de se faire mal. Hein, ouais. C'est le roi d'Alger, c'est le roi de la ville. Et t'arrives, t'es obligé de passer d'abord par la réserve de telle équipe pour t'adapter, et ensuite monter en équipe première. Il faut se faire mal. Et peut-être que peut-être que les joueurs d'Afrique subsaharienne, ils ont moins ce problème-là, mais les joueurs d'Afrique du Nord, ils ont peut-être des conditions au départ un peu meilleures et même très bonnes pour ceux qui sont les meilleurs dans les grands clubs des capitales. Et ça explique, pour moi, des choses quand même.
Ouais.
Franck, vous vouliez ajouter
quelque chose ? Oui, il y a quelques jours, je regardais, en fait, Nabil était pas loin de moi d'ailleurs, je regardais le match au sommet, Ismaili contre le Ahly, justement, qui était un premier contre le deuxième du championnat. Bon, c'est vrai qu'il y a personne dans le stade, donc forcément un match de football sans public, c'est une tristesse terrible.
C'est comme un studio sans
public. Mais le match était bon. Techniquement, c'était bon. Il y avait beaucoup d'internationaux sur le terrain. Il y avait même des gens qui sont de d'autres continents, puisqu'ils ont un Colombien, Ismaili.
Ah.
Je trouve que il y a encore beaucoup de qualité là-bas.
Il y a de la qualité.
Il y a encore beaucoup de qualité. Il y a encore des joueurs qui prennent le risque d'y aller. Le Marocain Walid Azaro.
Très bon joueur.
Qui a été désigné, je crois, il y a quelques jours, meilleur attaquant du. J'étais surpris d'ailleurs,
qu'il soit. C'était la. Pas forcément. Ouais.
Mais bref,
c'est-à-dire qu'on veut le transférer. Ça.
Ouais. Non, mais il y a encore un petit peu d'attractivité, même si elle est en baisse. C'était bien de le préciser. Mais l'Égypte reste de toute façon encore attractive. Il y a beaucoup de joueurs burkinabés, sénégalais, ivoiriens, maliens qui continuent d'aller
dans le championnat. Frédéric, mais Mohamed Salah, comment il est vu ? Est-ce qu'il vient souvent au pays ? Est-ce que lui aussi il a des œuvres sociales ? Est-ce qu'il fait partie des placards publicitaires comme certains, on voit les Messi et tout.
Enfin, je veux dire le profil que Nabil a décrit. Pour ce qui est de la plupart des internationaux nord-africains, justement, Mohamed Salah, il s'échappe de ce profil en fait. C'est un joueur qui est humble. Je donne un exemple. Par exemple, quand l'Égypte s'est qualifiée pour le mondial, on lui a remis une villa. Le gouvernement lui a donné une villa pour le remercier. Et il a refusé. Il a refusé tout simplement parce que il estimait que c'était l'argent,
au moins 11.
Que c'était l'argent de du peuple et qu'il n'avait pas besoin de cet argent en fait.
Est-ce que je me permets la chance de t'avoir. On sait qu'Aboutreika avait des sympathies. Le grand joueur de
pour les frères musulmans.
Est-ce que Mohamed Salah a une position ou pas?
Justement,
du tout.
Ouais, il n'a pas de position. Il est apolitique. Et il est dans beaucoup de publicité contre la prévention contre la drogue.
Il est actif, je crois aussi dans son village, un agrégat.
Très actif, ouais.
Fait beaucoup de choses, hein.
Bastioni.
Donc c'est important. Ça veut dire il est quand même très investi dans la vie de son pays, et même quand il est pas là.
Exactement.
Sur le plan caritatif.
Je pense qu'il est très aimé pour ça.
Par exemple, il est actif sur Twitter quand il y a un Égyptien, un haltérophile un balleur qui devient champion. Il le salue, il le valorise, il l'adoube un peu. Il est très apprécié en Égypte.
Très bonne image de
marque. Mais est-ce qu'il dépasse Aboutreika dans les esprits ou pas?
Ouais. Parce qu'Aboutreika, je pense que depuis 2013, il est sorti de la plupart des supporters.
Merci beaucoup Frédéric d'être venu dans notre studio et vous nous donnerez d'autres éclairages avant la Coupe du Monde pour savoir comment se présentera l'Égypte en Russie. Merci messieurs d'avoir réchauffé l'ambiance et merci à David Finzel, Guillaume Ploquin et à demain.